Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Déclaré par le président de la République le 13 novembre à 22h30 pour une durée de 12 jours, l'état d'urgence en France a été prolongé par l'Assemblée le 26 novembre pour 3 mois. Il devait prendre fin donc le 26 février. Mais hier soir, l'Assemblée nationale, à 103 voix pour, 26 contre et 7 abstentions, a voté le premier article du projet de loi de révision constitutionnelle qui prévoit désormais que l'état d'urgence sera décrété en Conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas de calamité publique. Je précise que 441 députés étaient absents de l'hémicycle pour un vote aussi important qui permet donc à l'exécutif de déclarer l'urgence sans passer par un vote. Comme demandé par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, l'état d'urgence sera donc prolongé à nouveau de 3 mois. Pour mémoire, l'état d'urgence décrété en France la dernière fois en 2005 à la suite des émeutes en banlieue permet d'instaurer un couvre-feu, d'effectuer des perquisitions administratives chez les particuliers dans les sociétés sans l'aval de la justice, d'assigner des personnes à résidence, la plupart de ces assignations à résidence étant sans date de fin, de fermer des lieux jugés dangereux sans l'aval de la justice, de dissoudre des associations, d'imposer le bracelet électronique et aux policiers de porter leurs armes en dehors de leur service. Mais l'état d'urgence permet surtout d'interdire toutes sortes de rassemblements. Ce fut le cas notamment des mobilisations contre la COP21, mais aussi des manifs pour les migrants, des manifs contre l'état d'urgence en particulier. On notera en revanche que la plupart des manifestations sportives et commerciales, de type marché de Noël par exemple, ont été maintenues. Aujourd'hui donc, 3 mois en état d'urgence, que s'est-il passé exactement en France ? C'est un journal en urgence et en 2 parties, aujourd'hui et demain, par Olivier Minot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent.
Journal de l'état d'urgence.
Sont en cours.
Vendredi 13 novembre 2015.
Dans l'agglomération parisienne.
J'ai passé une partie de la nuit devant mon ordinateur, immobilisé, à suivre les événements en direct.
L'état d'urgence sera décrété.
François Hollande a annoncé qu'on était en guerre et il a décrété l'état d'urgence.
La circulation pourra être interdite.
Je me demande bien ce que ça va changer demain dans les rues de Lyon.
Il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées.
Est-ce qu'elles seront vides ? Est-ce qu'il y aura des tanks de l'armée sur la place des Terrons ?
Moi, je trouve ça dommage que le gouvernement dise à la radio et à la télé mais éviter les rassemblements, ça peut être dangereux, ça peut être mené pour cible. Je veux dire, là, il y a eu 128 morts. Charlie Hebdo, c'était quoi ? C'était 6 à 10 morts. Et pourtant, le lendemain matin, il y avait un rassemblement à 10h ici. Et que 128 morts, il n'y a absolument aucune commémoration.
Bon, il y a 3 jours de deuil national et peut-être qu'il y aura après des commémorations. Mais ils n'allaient pas laisser faire un défilé à Paris avec un type qui est peut-être dans la nature et qui en aurait peut-être profité. Bon.
Journal de l'état d'urgence. Samedi 14 novembre 2015.
Il y a encore des identitaires qui sont allés foutre le bordel, alors...
Finalement, les rues lyonnaises n'étaient pas moins remplies que d'habitude.
On n'est pas terrorisés. Autrement, on serait chez nous, cloîtrés.
Mais tout le monde parlait des attentats.
Les terrasses sont remplies. J'ai l'habitude de venir sur la place Terreau le samedi, je vois pas la différence. Il y a du monde.
Au détour d'une conversation, j'ai appris qu'au mémorial improvisé sur la place Bellecour, il y avait eu une agression.
Je m'appelle Jessim, j'ai 16 ans. Voilà, je suis un jeune lyonnais. Donc samedi 14, on voulait sortir avec des amis, se promener quoi, essayer d'oublier. Et sur la place Bellecour, il y avait un rassemblement à la mémoire des victimes. J'étais curieux un peu, donc on est parti, on a jeté un petit coup d'œil. On a vu des bougies, des choses écrites au sol, donc juste pour jeter un petit coup d'œil quoi. Ensuite, j'ai commencé à partir vers le métro et à ce moment-là, 3 personnes nous ont interpellés. Il y avait une personne qui me parlait, une personne à sa droite, une personne à sa gauche. À peu près à la trentaine, quoi. Un peu alcoolisé. Je savais que c'était pour en découdre. Je l'avais vu dans leurs yeux, quoi. Il m'a posé des questions, il m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé hier aux des attentats de Paris en référence à ces attentats ?» Je lui ai dit « J'étais, je suis comme tout le monde, je suis comme vous. » Il m'a répété la question, je lui ai dit « J'ai pas envie d'en discuter, j'ai pas envie de débattre de ça. » Après il m'a dit « Tu veux nous imposer la charia dans notre pays ?» Je lui ai dit « J'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de débattre, j'ai essayé de partir quoi. » Et celui à sa droite, il m'a mis une patate. Ensuite, celui qui me parlait, il m'en a mis une deuxième dans la tête. Je suis tombé par terre. J'ai senti des coups de pied. Ensuite, je me suis relevé. J'ai reculé, j'ai buté sur un chien. Il aboyait quoi quand je me suis relevé et j'allais lui tomber dessus. Ensuite, j'ai couru vers la police municipale qui était garée à même pas 30 mètres. Et au moment où je courais, il criait « Islam hors d'Europe ». Une vingtaine de personnes, ils criaient « Islam hors d'Europe ». Comme une manifestation, comme vous voyez dans les manifestations des identitaires. Directement, j'ai compris. Vu que j'étais basané, que je portais une tenue traditionnelle maghrébine, Afrique du Nord. Ça s'appelle un camis. Et vraiment, c'est parce que j'étais musulman, je pense. Ouais, c'est ça. Ils m'ont vu, au faciès, quoi. Des fachos. Qui ont rien dans la tête. Ils sont comme ceux qui ont commis les attentats, quoi. Frappe pour frapper. Des innocents. Daesh identitaire, c'est la même chose. Ils m'ont dit vertèbre brisée. J'ai une ceinture lombaire et j'ai une entorse à la cheville, des contusions, des hématomes. J'ai 45 jours d'arrêt de sport et j'ai 30 jours d'ITT. Je vais quand même en cours. Je suis pas obligé, mais franchement, si je vais pas, je vais rater beaucoup de cours. Et ça va me tuer mon année scolaire.
Journal de l'état d'urgence.
Je repense, quoi. J'ai des flashs de l'agression. Je repense. Je suis encore choqué, quoi.
Jeudi 26 novembre 2015.
Aujourd'hui, j'ai reçu un mail de Mathieu, un ami journaliste qui travaille pour la revue Z. Il écrit dans un message collectif à ses copains « Vous verrez peut-être sur internet que le Massico a été perquisitionné ce matin. » Le Massico, c'est le squat où il habite. « Sachez juste que ça va pour ma copine et moi. On n'a pas été brutalisés et on s'est pas fait voler d'affaires. »
Bienvenue au Massico.
Je décide d'aller voir Mathieu dans sa maison.
Le Massico, c'est un bâtiment qui est en proche banlieue parisienne. Et c'était avant les bureaux d'une société de HLM qui sont restés vides pendant au moins 5 ans. Et donc depuis septembre 2014, c'est une maison où habitent une dizaine de personnes et qui progressivement est devenue aussi un lieu d'activité. Il y a une chorale qui répète chaque semaine. Il y a une distribution de fruits et légumes à prix libre qui sont récupérés au marché de Rungis et qui sont distribués ici. Et puis il y a de temps en temps des ciné-clubs, des discussions politiques, des réunions associatives. Donc il y a deux entrées ici en fait. Donc il y a une habitante qui partait au boulot par l'entrée avant et qui a vu devant la porte une vingtaine de Robocop, donc de personnes... habillée en bleu foncé avec tout un tas de protections sur le corps et des armes à la main. Et donc elle leur a proposé de leur ouvrir, mais le temps en fait qu'elle recherche sa clé et qu'elle leur ouvre, ils avaient déjà enlevé la porte et ils sont entrés. Et au même moment, et leurs collègues qui ont cassé la porte arrière.
Donc là, il y en a deux qui rentrent armés. Fusil à pompe braqué sur moi, qui me dit « couche-toi ». J'ai pas eu le temps de me coucher que le deuxième me met un coup, je tombe par terre, avec coup de pied dans le ventre, machin. Et là, il me menotte. J'entends juste l'armement du fusil à pompe. Quand il charge, là, le... Du coup, j'ai une entorse et tout ça, donc j'ai pas le temps de réagir. J'étais un peu choqué complètement, quoi. En plus, j'étais pas habillé, donc du coup, j'étais en pyjama, là, ici, il faisait froid, quoi. Je tremblais et tout, mais après, ça allait.
Alors en fait, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on est en interaction que avec ceux qu'on appelle les Robocop, qui, eux, parlent pas, sauf pour te dire « tais-toi, mets-toi là, bouge pas », ce genre d'interaction. Et en gros, au bout de 5-10 minutes, les Robocop disent aux civils « bah c'est bon, le lieu est sécurisé ». Et donc là, ils baissent leurs armes et les civils commencent à rentrer en scène et à nous parler d'une manière plus normale, disons. Et donc c'est à ce moment-là, ouais, au bout d'un quart d'heure, qu'il y a une dame d'une cinquantaine d'années qui donne un papier sur lequel c'est écrit qu'ils ont un avis de perquisition dans le cadre de l'état d'urgence et qu'ils viennent ici pour chercher des armes ou des objets pouvant servir à des actions violentes parce que habitent ici des gens qui sont supposés appartenir à la mouvance contestataire radicale. Ils ont retourné tous les canapés, retourné tous les lits, ouvert tous les tiroirs, fouillé dans tous les sacs à vêtements. Moi, ils ont fouillé, j'ai une tente par exemple dans ma chambre, ils ont ouvert le sac de la tente et ils ont vérifié chaque piquet. Et quand ils avaient fini ma chambre, je leur ai proposé qu'on range ensemble tout ce qu'ils avaient dérangé. Et les policières qui s'occupaient de ma chambre ont décliné la proposition. Elles m'ont dit « Non, vous rangerez après. » En fait, une semaine avant, on a reçu la visite d'un type en civil qui s'est présenté comme un policier des renseignements généraux. Donc il a discuté avec une personne de la maison. Il lui a demandé si on allait accueillir des gens pendant la COP21. Et lui a dit, en tout cas, si vous accueillez des Black Blocs, sachez que vous aurez le RAID chez vous. Donc l'habitant lui a demandé, mais monsieur, c'est quoi le RAID? Et donc là, le policier lui a répondu, bah, vous voyez ce qui se passe à la télé, ça sera pareil. Et donc cette discussion a eu lieu le lendemain de l'assaut de Saint-Denis, où des policiers avaient tiré 5000 cartouches sur un immeuble. Donc c'était pas entièrement une surprise quand ils sont venus le matin. Même si tant que ça n'arrive pas, que t'as pas 30 policiers dans ton salon, ça reste quelque chose d'assez abstrait. Et que là, tout d'un coup, on se disait, ah ouais, donc ils sont vraiment capables de faire ça, en fait, de venir le matin chez nous, casser les portes, taper sur nos potes et nous retenir là. Et puis on se demande s'ils vont tous nous embarquer ou pas. Et puis qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver à nous reprocher. En fait, on hébergeait personne. Et ils ont pris un téléphone, des livres et des outils de bricolage. Et ensuite, ils ont pris, mais ça, ils nous l'ont dit et ils l'ont longuement commenté, ils ont pris des affiches qui contestaient la COP21. Et voilà, donc ça, ils ont pris toutes les affiches qu'ils ont trouvées.
Moi, ils m'ont embarqué au commissariat. Donc,
ah, toi, ils t'ont embarqué.
Ouais, ils m'ont gardé 2 heures, quoi. Donc, ils disent, on sait que vous préparez des trucs pour la manifestation, voici les photos, vous êtes nombreux. Et donc, c'est exactement les photos où je reconnais 2 personnes, mais j'ai un machin, mais c'est des gens de la chorale qui viennent répéter. Et du coup, je vois les photos, je dis, ah putain, on est surveillés. Dans ma tête, ça m'a fait ça, quoi. Ça m'a fait halluciner, en fait.
Donc, il y a Anthony aussi qui a été embarqué. Et pendant 24 heures, on ne savait pas où il était. Et on a su ensuite qu'il a été mis en centre de rétention administrative, où il est resté 4 ou 5 jours, parce qu'il est américain et qu'il n'avait pas de titre de séjour valable. Il a été libéré, mais il doit maintenant quitter le territoire français dans le mois. Donc il y a eu ça comme conséquence assez importante pour lui.
Ben moi, j'ai du mal à avaler ça encore parce que ça a été très violent pour moi. J'y repense souvent en fait au truc. C'est des cauchemars qui reviennent comme ça le matin. Ou dès que le moindre bruit, en fait, t'es au taquet quoi. On se retrouvait à des heures tôt le matin en disant j'arrive pas à dormir. C'est pas comme d'habitude quoi.
Donc effectivement, ils sont repartis sans avoir trouvé aucune arme ou quoi. Et maintenant, il n'y a aucune poursuite à notre connaissance. Ils ont dit que c'était pas ici une affaire de terrorisme et que c'était juste des militants radicaux qui sont dangereux et que c'est ça qu'ils voulaient attaquer, quoi.
Vous, vous sentez militants radicaux dangereux pour l'État?
Non.
Transculture, les pieds sur terre.
Journal de l'état d'urgence, vendredi 27 novembre 2015.
Aujourd'hui, pour le deuil national, François Hollande a incité tout le monde à sortir son drapeau. Je regarde par ma fenêtre, dans la petite rue des pentes de la Croix-Rousse à Lyon où j'habite, personne n'a suivi la consigne. Et moi, le seul drapeau que j'ai, c'est un étendard berbère que m'a donné un ami kabyle. Je pense que je vais pas le sortir.
Antonin Duviol, grenoblois de chez grenoblois, et informaticien à ses heures de travail. Au moment de la journée de deuil national, tout le monde était appelé à mettre des jolis drapeaux bleu, blanc, rouge. Je suis pas fan de ce drapeau. Tout ce qu'il y a derrière au niveau de l'extrême droite et de la France aux Français. Donc voilà, pas eu envie de mettre de drapeau bleu, blanc, rouge, mais j'avais quand même envie de faire quelque chose. Et du coup, ben, ma copine qui voyage pas mal avait un jour acheté un drapeau de pirate pour faire des photos avec ses collègues de voyage. On a eu comme ça un espèce d'éclair de « Ah, et si on mettait le drapeau de pirate ?» Avec les gens qui se sont fait massacrer au Bataclan, qui étaient quand même allés voir un groupe un peu rock. Pour moi, drapeau de pirates représentait bien aussi, à mon avis, plus que le drapeau français pour pas mal de gens dans cette salle qui se sont fait détruire, quelque chose de peut-être de plus sympa. Du coup, on met d'autres drapeaux de pirates un peu en rigolant, en se disant oh, c'est sympa de mettre un drapeau de pirate. Et puis en fait, c'est ça, si on finit de manger, on va faire la sieste avec ma petite fille qui venait de naître. Et là, il y a la sonnette qui sonne une fois, deux fois, trois fois. Et puis, j'avais quand même l'impression que c'était insistant comme façon de sonner. Et donc, ouvert la porte et face à face avec trois uniformes de la police nationale. Ils sont à la fois essoufflés, donc c'est ça qui m'a aussi perturbé, parce que ça se sentait qu'ils étaient un peu dans le mode urgence, à courir dans l'escalier pour venir m'attraper presque. Donc ouais, ils me disent que les gens se plaignent et que c'est une journée de deuil et que faut pas mettre de drapeau comme ça. Oui, globalement, je pense que si j'avais pas dit oui, je l'enlève, je sais pas comment ça aurait pu finir, mais de toute façon, ils étaient là pour me le faire enlever et il fallait que je l'enlève. Ils ont quand même pris ma carte d'identité, demandé mon numéro de téléphone. Bon, j'ai peur, j'ai des amis qui m'appellent, je me demande si je suis pas écouté par tout le monde. Je suis retourné à la fenêtre et j'ai vu qu'il y avait encore deux brigades en dessous qui attendaient que j'enlève le drapeau. Donc j'étais vraiment complètement effaré de voir le dispositif qu'il pouvait y avoir autour de ça, alors que enfin, pour moi c'était vraiment quelque chose un peu d'anodin. Ce qui me choque après le plus, c'est qu'il y a pas mal d'amis qui m'ont dit « Ouais, bah, tu l'as bien cherché. »
Journal de l'état d'urgence, samedi 23 janvier 2016.
Aujourd'hui, je suis allé en Essonne, dans le sud de la région parisienne, à Dorly. J'ai rencontré Bachir, qui travaille depuis 2008 comme agent de sécurité à l'aéroport. C'est lui qui contrôle les sacs, à côté des portiques qui détectent le métal.
Le 20 novembre, je me suis convoqué par mon directeur. Il m'a dit, voilà, c'est pour ta barbe. Ta barbe, elle est trop longue. Je lui ai dit, comment ça, ma barbe, elle est trop longue? J'ai toujours eu une barbe comme ça. Il fait, non, là, elle est trop longue, là. Il faut que tu fasses quelque chose. Si tu ne farasses pas ta barbe, je te change ton planning. Moi, je travaille le matin. Mon planning, c'est je fais 5h30 du matin jusqu'à 13h, généralement. Il m'a dit tu passeras du soir, c'est-à-dire 13h-21h. Après il m'a dit une petite boutade entre guillemets, voilà, si tu veux je t'offre une tondeuse pour ton anniversaire, comme ça le cas il est réglé. Pendant la convocation, il m'a énuméré les noms des personnes qu'il allait convoquer dans la semaine. Les noms qu'il m'a donné sont toutes des personnes de confession musulmane et qui m'a dit qu'il allait remédier comme moi en me disant voilà, si vous venez sur le poste avec votre barbe, je vous refuse l'accès. J'ai toujours eu la barbe, de toute façon, j'ai toujours eu la barbe. C'est juste que là, j'ai suivi le mouvement que j'aime bien, d'ailleurs, le mouvement hipster. Et c'était pas une barbe touffue, hein, c'était vraiment un bon petit dégradé, très très propre. Aucun rapport avec l'islam ou la religion. Rien à voir. Pour moi, c'était un effet de mode, tout simplement. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi il m'a pas fait la réflexion avant? Donc le lundi, j'ai décidé de pas couper, d'y aller comme ça, pour voir si c'est vraiment réel, ces menaces. Ou ouais. Bon, bref, je travaille à 5h30 du matin, je me présente sur le poste, j'ai pas de soucis, on me dit rien. Et c'est le lendemain, le 24, où je commence à 5h30, pareil, et c'est là on m'a refusé sur le poste. On m'a refusé, on m'a dit non, on t'accepte pas comme ça. Je lui ai demandé c'est quoi la raison. On m'a dit oui, c'est ta barbe. Je suis rentré chez moi, j'y réfléchis. Je dis bon, je vais pas me prendre la tête pour une barbe quand même, c'est mon emploi qui est en jeu. J'ai décidé de me couper la barbe. Je me suis bien taillé la barbe en dessous. Et le lendemain, je me suis présenté, le 25, il n'y a pas eu de soucis. Voilà, on m'a dit, ouais, t'es mieux comme ça, c'est bien, voilà, pas de soucis. Je suis ok, bon, l'histoire, elle est réglée. C'était juste une petite turbulence, mais sans aucun souci. Une semaine et demie après, j'étais en train de travailler, on m'a demandé d'aller au bureau. Et quand je rentre dans le bureau du directeur, on me dit, voilà, c'est une convocation préalable à un licenciement. Donc, il m'a énuméré mes fautes, mes absences et retards. Il a mis aussi les bavardages comme motif de licenciement. Il a mis bavardage. Et il y a un cas aussi également, c'est pour le licenciement, c'est la barbe. Ça a été bien stipulé noir sur blanc, comme ma barbe gênée. Voilà, votre barbe. Alors que j'ai fait le nécessaire, j'ai coupé ma barbe. Et bah la semaine d'après, je reçois un courrier licenciement pour faute grave. Ça a vraiment été un choc. Hein. Je savais pas que ça allait arriver jusqu'à là. J'ai plus de travail. J'ai ma femme qui travaille pas, c'est dur, j'ai un enfant aussi également. Donc je suis en train de passer des moments très difficiles chez moi. Se faire licencier pour, entre guillemets, une barbe, parce qu'il a essayé de noyer le poisson avec d'autres critères. Se faire licencier pour une barbe, ça fait mal, quoi. Bah, je pense surtout que la société a profité de l'état d'urgence pour pouvoir faire un petit peu le ménage au sein de sa société. Peut-être des gens qui dérangent. C'est vrai que moi, j'avais pas la langue dans ma poche. Dans la société, quand j'aimais pas des choses, j'allais voir directement pour parler. Il y a des personnes qui portent la barbe qui ne sont pas musulmanes, qui n'ont rien eu. Enfin, c'est pas, disons, pas des grosses barbes, c'est vrai, certes, mais voilà, c'est pas des barbes qu'on a eues du jour au lendemain. Elles ont pas poussé en un jour, notre barbe. Ça fait des années qu'elles ont poussé. Pourquoi, comme par hasard, après le 13 novembre, ça se radicalise? Comme a dit mon avocat, c'est la société qui s'est radicalisée, c'est pas les gens.
Journal de l'état d'urgence, samedi 19 décembre 2015.
Pour la première fois de ma vie aujourd'hui, j'ai interviewé une jeune femme avec un voile intégral. Ce qui m'a le plus perturbé, c'était pour le micro. On doit toujours faire attention à bien orienter le micro par rapport à la bouche, mais là je la voyais pas. Faut que j'enlève mes chaussures, non?
Ouais, bon, machin.
Là-haut?
Ouais.
À part ça, j'ai rangé mes préjugés. Célia, jeune convertie de 20 ans, m'a serré la main, et pour l'interview, on était juste tous les deux, assis sur son lit dans sa chambre. Elle habite dans un foyer d'une association musulmane qui recueille les femmes à la rue.
Je me suis retrouvée dehors après des conflits familiaux quand j'avais 18 ans. En fait, j'avais déjà des problèmes de famille, j'étais en foyer, etc. Enfin, c'était vraiment compliqué. Après, c'est avec mon père, en l'occurrence, ça se passait mal, c'est pour ça que j'ai été placée. Quand je suis revenue, j'avais 17 ans et demi. Le fait que j'ai fait ce choix-là religieux, ça a empiré déjà la situation qu'il y avait déjà. Donc, surtout, à mon avis, la pratique, je pense. Je suis voilée intégralement. Et voilà, ça n'a pas forcément plu à mon père. Donc, il m'a mis dehors, quoi. Mardi 8 décembre, à 20h, j'étais là, assis sur mon lit, et j'ai entendu toquer fort. Ils ont crié police, ils sont rentrés directement, ils sont rentrés dans toute la maison. Il devait être une dizaine ou une quinzaine. Moi, je suis sortie de ma chambre, mais entre eux, ils se demandaient s'il y avait quelqu'un dans la maison. Après, moi, je leur ai dit que j'étais là et que j'étais toute seule. Ils m'ont braqué. Et après, ils m'ont dit contre le mur, les mains en évidence. Donc, je me contre le mur, les mains en évidence. Et une dame, elle m'a palpé. Elle me tenait à me plaquer contre le mur, en fait, pour pas que je bouge. Et après, ils ont perquisitionné ma chambre, donc ils ont tout retourné. Là, j'ai tout rangé, mais c'était le bordel. Il y en a une... En fait, elle me faisait des petites réflexions, elle me lançait des petits pics du style... Dans l'islam, la femme, elle est soumise, donc en gros, vous voulez être soumise. C'est du gâchis, que j'ai 20 ans, que je suis jeune, que je pourrais faire quelque chose de ma vie... Que les femmes, elles s'étaient battues pour avoir leurs droits, que moi je faisais ça. Après, c'est, oui, des femmes, elles sont battues pour avoir ce qu'elles voulaient, mais c'est normal, faut se battre pour ce qu'on veut. Parce qu'il y en a qui disent que, voilà, que ça fait partie du droit de la femme de s'habiller comme elle veut, mais on a le droit de se mettre des mini-jupes parce qu'il y en a qui veulent en mettre, on a le droit de se couvrir, je fais ce que je veux en fait. Le commissaire, il m'a ramené une feuille avec la feuille de perquisition du préfet, de je sais pas quoi. Il avait écrit « Membre de l'association suspecté d'être en relation avec des personnes pouvant troubler l'ordre, mettre en danger l'ordre public ou un truc comme ça. » Et moi, quand j'ai lu ça, je lui ai relu ce passage-là. Je lui ai dit « Mais c'est qui, en fait? C'est les membres de l'association ou les hébergés ?» Il m'a dit « Bah, en gros, il ne savait même pas. » J'ai dit « Mais déjà, je comprends pas, parce que s'il y a quelqu'un de suspecté, pourquoi il n'y a pas de nom ?» Parce que même nous, on est musulmans, mais on n'est pas en contact avec des gens de Daesh ou qui sont Al-Qaïda ou en Syrie. Après, il y a des déviances, enfin, on n'a rien à voir avec ça. C'est, leur idéologie, elle est un peu à l'ouest, quoi. C'est pas, parce que même, ils veulent imposer l'islam aux gens, état islamique. Même dans la religion, c'est pas comme ça que ça se fait. On peut pas imposer à quelqu'un d'être dans une religion, sachant qu'au fond de lui, même si, admettons, il dit oui et qu'il le fait, si au fond de lui, ça l'est pas, ça compte pas. Donc, c'est bête de faire ça. Il y a de tout sur la terre, c'est comme ça. Il pourra jamais y avoir... que des musulmans, faut savoir vivre ensemble, et puis voilà.
Je m'appelle Virginie, je suis la vice-présidente de l'association Beytouna. Donc Beytouna, c'est une association où on héberge des femmes à la rue et on les aide à se réinsérer socio-professionnellement. Les filles qui viennent chez nous, on les domicilie ici. Elles prennent l'assistante sociale de la ville d'Argenteuil. Et nous, c'est un appui, en fait. Par exemple, s'il lui demande de faire des papiers, tout ça, on va lui expliquer un peu plus les démarches. On va les aider pour les CV, tout ça. On fait un suivi un peu plus poussé que ce que font les assistantes sociales, parce qu'elles ont beaucoup aussi de travail dans la ville. On est une association musulmane française. Maintenant, si demain, il y a une femme qui est à la rue, qui correspond entre guillemets aux critères d'hébergement et qu'elle n'est pas musulmane, bien sûr qu'on va l'héberger, on ne peut pas la laisser dans la rue. Je ne vais pas faire une différence. Ah non, tu n'es pas musulmane, je t'aide pas, au contraire. Donc il y a un peu tous les profils. Hein. Il y en a qui ont eu des problèmes avec leur ex-mari, d'autres avec leurs parents, enfin d'autres qui ont un parcours de vie un peu différent. Mais oui, elles sont 6 actuellement. Vu toutes les perquisitions qui arrivaient, on s'est dit, nous, on héberge des femmes, on est une association, il y a des chances que ça nous arrive. Mais comme on n'a rien à se reprocher, on s'est dit, même s'ils viennent, ils vont rien trouver. Mais on ne pensait pas qu'ils allaient tout casser. Enfin, c'est quoi le but? Nous, on a fait des travaux. On a fonctionné sur des dons, on s'est arrangé pour trouver de l'argent, pour financer des travaux. Ça fait 9 mois qu'on a fini les travaux. 9 mois, donc tout est neuf, et là, tout est cassé. On a un foyer. On n'a pas de subvention. On est tous bénévoles. On aide l'État, parce que les centres d'hébergement, il n'y en a pas assez. Donc là, on pallie un manque de l'État. Et on se fait contrôler. Je suis partie au commissariat. On a appelé la préfecture pour savoir ce qu'on nous reprochait. Rien. C'est par le journal Le Monde, quand la journaliste m'a appelée, qu'elle m'a expliqué. Donc en fait, on nous reproche d'héberger des femmes dont les maris font le djihad en Syrie. Maintenant, s'ils étaient venus voir à la maison, ils verraient qu'il n'y a aucune femme de djihadiste. Ils n'ont pas vérifié, ils sont venus casser. Je pense que ça coûte plus cher de venir casser chez des gens, prendre 15 personnes, enfin 15 policiers, les payer le soir, parce que je sais pas, ça doit être tarif de nuit ou je sais pas quoi, de payer. C'est nos impôts quand même qui payent ça. Donc moi j'ai payé des impôts cette année pour qu'on vienne me casser les portes de mon association.
Secrets travel. I start to believe if I were to leave, things guide a man, change his hands held high.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, journal d'une France en état d'urgence. Un reportage d'Olivier Minot, réalisé par Éric Lancien. Merci à Jessime, à Antonin, à Bachir, à Éric Moutet, aux habitantes et habitants du Massicot, à Célia, à Virginie, à Abdelaziz du CRI et à Alexis Kraland. Commentaires, réactions, suggestions. Pour l'instant, c'est plutôt sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres Twitter, que vous pouvez partager nos émissions ou bien les commenter. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richeux. Restez avec nous.